Pour inaugurer cette émission, nous accueillons celui qui, depuis l'an dernier, est le directeur de notre établissement. Bonjour, Romain Emery.
Bonjour.
Pour vous interroger, nous accueillons Joël Rivière et Géraud Venant, élèves de seconde, ainsi que Marceau Loire, qui lui est un élève de troisième. Alors avant de commencer, je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez expliquer à nos auditeurs les spécificités, les différences qui existent entre un établissement catholique privé et un établissement public.
Alors les différences sont à la fois nombreuses et peu nombreuses. La différence fondamentale, c'est qu'un établissement catholique, comme son nom l'indique, est associé à l'Église. Donc on a mission d'Église. Donc ça, c'est la différence fondamentale avec un établissement public qui est associé à l'État et donc qui a une mission plutôt citoyenne, de former des citoyens. Sur notre projet, nous, particulier d'établissement catholique, on a coutume de dire qu'on a tendance à former des hommes et des femmes, alors que dans l'enseignement public, ils ont pour projet de former des futurs citoyens. Ça, c'est la différence, à mon sens, fondamentale. Mais on a aussi des points communs. On est associé à l'État par contrat, ce qui signifie que les programmes sont les mêmes dans un établissement public ou dans un établissement catholique.
Et le fait d'être un établissement affilié à une religion en cette période de tension interreligieuse, est-ce que vous pensez que ça peut être qu'on peut jouer dessus? Ça peut être négatif, positif? Je sais que vous êtes le quatrième directeur laïque. Est-ce que ça change quelque chose?
Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que ça change quelque chose d'être un directeur laïque? Je veux dire que moi, j'ai pas le sentiment que ça change quelque chose dans la mesure où je reçois ma lettre de mission de l'évêque. Donc, j'ai reçu ma lettre de mission pour Saint-François de Sales l'an passé par Monseigneur Habert. Donc, à ce titre-là, il y a une mission pastorale qui est engagée aussi auprès du directeur d'un établissement catholique. Après, vous faites écho aux tensions interreligieuses. Un établissement catholique a vocation à accueillir tous les élèves, quelle que soit leur religion. Maintenant, on a une spécificité, on a une histoire, on a un parcours on a une identité catholique, cette identité catholique a vocation à être partagée. On a vocation également à donner la façon dont on voit et dont on perçoit le monde. Je pense que ça ne peut être qu'un plus et pas un moins.
Très bien, merci. Marceau avait une question.
Suite à votre bilan de l'année dernière, quels sont les objectifs et vos ambitions pour cette année scolaire?
Alors la question est vaste. Les objectifs, sur la thématique de l'an passé, nous avions établi une thématique autour de la confiance. La confiance générale, c'est-à-dire des enseignants à destination des parents, des enseignants à destination des enfants qu'on accueille. Et puis on souhaitait que cette confiance s'installe aussi entre les élèves. Pour cette année, on est parti sur le thème de la bienveillance. C'est-à-dire que il me semble que c'est la continuité. Pour qu'il y ait bienveillance, ça veut dire le regard qu'on porte sur les uns et sur les autres, sur la fragilité, sur les fragilités qu'on peut rencontrer. Donc l'un de mes objectifs, c'est de faire en sorte que cette bienveillance soit vécue au sein de l'établissement. Ça, c'est mon objectif prioritaire. Alors après, si on est sur des objectifs pédagogiques, financiers, matériels, là, je pense qu'il faudrait plus qu'une émission de radio pour développer tous les projets. Il y a eu, on va dire, des grandes lignes directrices. L'un des objectifs pour cette année pour le collège, ce sera de développer et de préparer la réforme du collège qui arrive à la rentrée prochaine, en 2016. Donc ça, c'est un objectif important pour le collège Saint-François de Sales, de garder nos spécificités, garder notre identité, tout en intégrant la nouvelle réforme du collège. Pour le lycée, continuer à travailler sur un plan qualitatif pour permettre à nos élèves d'avoir le baccalauréat, puisque c'est l'objectif qu'on se fixe, tout en les préparant aux études post-bac, qui sont souvent bien compliquées. L'objectif, il est davantage, scolaire pour le lycée. Voilà les grandes lignes. Après, il y a des gros objectifs très importants pour cette année, puisque, comme chacun le sait, depuis 2005, il y a une loi concernant l'accessibilité handicapée des bâtiments. Et là, on va, cette année scolaire, 2015-2016, engager de gros travaux sur qui vont s'engager maintenant sur presque 10 ans pour nous permettre d'accueillir les personnes en situation de handicap. Donc beaucoup de travail pour cette année scolaire.
Alors vous parliez tout à l'heure de la réforme des collèges, et au cœur de cette réforme, notamment l'emploi du temps, et justement Joël avait une question à vous poser à ce sujet.
Alors, à notre âge, l'emploi du temps nous paraît assez chargé, avec parfois 8 heures de cours dans une même journée, c'est-à-dire autant, voire plus qu'un adulte. Cela n'est-il pas trop ?
Alors, deux éléments de réponse. Alors, quand tu dis autant, voire plus que les adultes, pour quelqu'un qui travaille 35 heures, effectivement, pour quelqu'un qui travaille 35 heures, la moyenne, c'est 7 heures par jour. Maintenant, grand nombre d'adultes travaillent plus que 7 heures par jour. Je t'invite à faire une journée avec un directeur pour te rendre compte que la journée de 7 heures est une moyenne basse. Après, pour ce qui est des 8 heures de cours par jour, effectivement, un élève qui a quelques options, qui s'engage dans un cursus autre que les cours qui sont obligatoires, peut avoir une journée un petit peu chargée. Ceci étant, c'est propre au système scolaire français. Donc, est-ce que je pense que c'est trop ? Oui. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Non. Donc j'ai envie de dire que la plupart des adultes sont passés par le système scolaire, y compris en lycée, et donc on est encore là, on est encore debout, et je pense que c'est quelques années effectivement à passer sur lesquelles il faut accepter l'idée d'un emploi du temps chargé. Je rappellerai que si l'emploi du temps est chargé, c'est au bénéfice de vacances régulières. Donc on a l'emploi du temps chargé dans le système scolaire français parce que les vacances reviennent toutes les 6 à 7 semaines. Donc c'est 6 à 7 semaines de travail avec un emploi du temps 4 jours semaine à 8 heures, mais le mercredi, il n'y a que 4 heures. Donc, si on regarde raisonnablement, ça fait des journées chargées, mais sur des périodes de 6 à 7 semaines, avec un repos qui revient très régulièrement, avec au moins 2 semaines de congé à chaque vacances. Donc, voilà, c'est le système français.
Alors, justement, vous parliez tout à l'heure des options, et parmi les options, il y a les langues. Géraud avait une question.
Donc, pourquoi n'y a-t-il pas d'autres langues que nous puissions étudier, telles que l'italien ou l'arabe, qui pourraient remplacer plutôt les langues mortes, comme le latin ou le grec, qui sont moins utiles actuellement ?
Alors, il faut savoir que dans un établissement scolaire, l'ouverture pédagogique sur des langues se fait en fonction aussi des compétences des enseignants. Donc, actuellement, à Saint-François-de-Sales, nous n'avons pas de professeurs d'italien et d'arabe. La deuxième chose, c'est que l'ouverture d'une langue dans un établissement scolaire est assujettie aussi à la validation par le rectorat. C'est-à-dire que c'est le rectorat, comme on est associé à l'État par contrat, qui valide ou non l'ouverture d'une option, et donc d'une langue. Quant à la question, si c'est plus utile ou pas, je pense que les langues anciennes, et pas mortes, les langues anciennes véhiculent aussi l'histoire de notre société. Le latin trouve une équivalence. On a des langues comme l'espagnol, le français, l'italien qui tirent racine du latin. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on condamne les langues anciennes. Je pense que ce n'est pas parce que on fait des langues dites vivantes, on ne peut pas les opposer, je pense qu'elles sont complémentaires. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on va faire de l'italien et de l'arabe qu'on n'aura pas l'occasion de faire du latin ou du grec. Je pense qu'on est sur deux chemins complètement différents. Les langues italiennes ou arabes ou anglais ou espagnol ou allemand ont vocation à être parlées et donc à permettre une communication courante. Les langues anciennes ont vocation, je pense, à véhiculer une histoire, un patrimoine linguistique. Et donc, on est sur deux propositions complètement différentes, qui ne s'opposent pas.
On parlera en plus du latin en fin d'émission, avec la minute du latiniste et des élèves de seconde qui ont travaillé là-dessus. Marceau avait une autre question.
Comment qualifieriez-vous le lien qui existe et qui doit exister entre les élèves et les enseignants ?
Alors, un lien professionnel, nécessairement, ça c'est indispensable, entre les enseignants et les élèves. Mais je crois, ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, un lien, j'espère, de bienveillance réciproque, à savoir que les enseignants sont là pour accompagner les enfants dans leur parcours scolaire, tant sur le plan de la réussite scolaire, ce qu'on vise tous, donc la réussite des uns n'est pas celle des autres, mais pour autant, voilà, l'idée c'est que chacun puisse réussir avec ses compétences, mais tant aussi dans l'accompagnement de la personnalité, parce qu'on sait que dans un établissement scolaire, pardon, on ne fait pas que travailler, on vit aussi également. Donc il y a des projets, il y a des rencontres, il y a du lien. Donc la chance qu'on a, il me semble, à Saint-François-de-Sales, c'est qu'on reste une entité où chaque structure, que ce soit l'école, le collège ou le lycée, est à dimension humaine. On est sur un établissement potentiellement, à chaque fois, chaque structure est d'environ un peu plus de 300 élèves. Donc ce qui rend un climat et un lien, à mon sens, privilégié et plutôt, on pourrait qualifier de familial.
Selon vous, en général, que devrait-on changer dans l'établissement cette année ?
Alors, si la question porte sur les éléments matériels ou immobiliers, l'un des grands projets, c'est l'accessibilité handicapée. Le premier travail qui va être le nôtre, ça va être de travailler sur le bâtiment central, qui est le bâtiment qui accueille le plus grand public, que ce soit les parents, les enseignants, le personnel administratif. Donc le projet pour cette année, c'est un gros travail sur le bâtiment central, avec notamment la pose d'un ascenseur qui permette l'accès aux différents étages. Donc on est avec aussi des rampes qui permettent l'accès au bâtiment. Donc on espère conduire ça dans l'année 2016, peut-être 2016-2017. Si je continue sur l'immobilier, il y a l'effort constant d'essayer de régulièrement investir dans des salles de classe. Pour l'année à venir, on va plutôt s'axer sur le collège, puisque on a des salles plutôt pleines, avec des effectifs plutôt pleins en collège, et donc on voudrait se laisser un petit peu de marge de manœuvre avec la rénovation des salles du dernier étage du pavillon Mézin. Donc ça, c'est en cours de construction. Et puis, après, il y a effectivement les efforts réguliers à faire sur le parc informatique. Il faut savoir qu'un établissement comme Saint-François compte approximativement 450 postes informatiques. Donc ça nécessite un entretien régulier et complexe. Et l'un des projets importants sur la partie informatique, c'est toutes les questions autour de l'utilisation des tablettes numériques dans les pratiques pédagogiques. Donc là, cette année sera une année de tests pédagogiques sur certains niveaux de classe avec quelques enseignants, avec l'hypothèse ou le projet de développer ça à moyen terme en collège et en lycée, sachant que les problématiques sont complètement différentes. Sur les pratiques pédagogiques en collège et en lycée, on n'a pas les mêmes approches. Donc ça fait partie des grands projets d'aménagement, mais qui sans doute se verront pour les élèves en 2017-2018, pas avant.
Et d'ailleurs, donc, par exemple, les tablettes, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou...
Oui, mais niveau dégradation du matériel, par exemple niveau de tablettes numériques, comment on pourrait régler ça ?
Alors l'idée, c'est pas de rendre accessible, c'est pas d'avoir une tablette par élève, c'est-à-dire on va pas acheter et faire en sorte que tous les élèves aient une tablette au quotidien. L'idée, ce serait d'investir dans du matériel mobile, ce qu'on appelle des classes mobiles, et plutôt que d'avoir des postes informatiques dans des salles de classe, ce serait d'avoir une palette de 30 tablettes, par exemple, qui pourraient être utilisées de salle en salle en fonction des besoins pédagogiques des enseignants. Donc on mettra à disposition sur l'espace d'un cours, sur plusieurs cours, une tablette, mais la tablette appartiendrait à l'établissement au même titre qu'un ordinateur. Donc après, dans la dégradation du matériel, j'ai envie de dire que c'est comme un ordinateur, il suffit d'en prendre soin. Il faut que les élèves soient aussi responsables. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut s'envisager aujourd'hui, dans la mesure où les tablettes font partie maintenant de notre environnement courant. Voilà, donc je ne suis pas trop inquiet sur la dégradation du matériel.
Oui, alors j'aurais bien une question justement sur l'utilisation des tablettes. Parce que vous parlez, oui, justement, actuellement, on est enclin plus à utiliser les nouvelles technologies, mais enfin, les cours, est-ce que se feront-ils entièrement tablettes ou négligeront donc les écritures par un stylo bille classique ?
Alors, je pense que les tablettes, ça reste un outil parmi d'autres. Et donc, on ne perdra pas le papier et le crayon, ça me semble aujourd'hui impossible. ne serait-ce que pour des raisons d'évaluation, ne serait-ce que pour des rendus de documents. Voilà, ça me semble. Maintenant, ça reste un outil qui est. Alors, je disais qu'il y a deux portes d'entrée entre le collège et le lycée. Mon envie première pour le collège, elle serait d'avoir des tablettes en remplacement des livres, pour éviter d'avoir un cartable qui fait 15 kilos en moyenne pour des élèves de collège.
C'est vrai que les élèves se plaignent, il y a souvent de ça. Vous aussi, oui.
Voilà, donc là, effectivement, je pense que du coup, l'objet est un petit peu différent. Et puis, pour fin de collège ou lycée, avoir la culture, effectivement, du travail autour maintenant d'applications qui sont de très bonne tenue, de bonne qualité, quelles que soient les disciplines, pour avoir un outil complémentaire dans l'apprentissage. Voilà. Mais je le vois vraiment comme un outil complémentaire et pas un outil unique. Hein.
Et pourquoi plus décider de tablettes numériques plutôt que d'ordinateurs portables à destination des élèves pour remplacer ces bouquins?
Alors c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, effectivement, parce que chacun des outils a ses limites. L'avantage des tablettes, c'est l'autonomie. Une autonomie qui peut tenir voilà, une journée de travail, ça tient largement avec une tablette, ce qui est moins vrai avec des ordinateurs portables. Ce qui est intéressant pour les tablettes, c'est l'accès effectivement à toutes les applications et de manière générale à Internet. L'inconvénient, c'est le traitement de texte, c'est les tableurs Excel, c'est voilà, toutes les applications qui nécessitent le maniement d'une souris. Donc là, on est en questionnement, c'est pour ça que je disais qu'il y avait une période de test avec quelques enseignants pilotes pour savoir sur quel type d'outils on doit partir et surtout, est-ce qu'on part avec les mêmes outils en collège et en lycée? J'en suis pas persuadé. Donc on se laisse 1 ou 2 ans pour essayer de tester et donc je peux pas donner la réponse aujourd'hui sur quel chemin on prendra. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on investira dans du matériel maintenant mobile et moins dans des classes à proprement parler.
Joël.
Une tablette est, on peut dire, plus fragile qu'un ordinateur portable?
Oui, mais je pense que si c'est une tablette ou un ordinateur portable qui tombe par terre, l'un ou l'autre n'est pas en bon état à l'arrivée.
Clavier, peut-être, niveau rapidité de frappe.
Alors, pour être utilisateur de tablette numérique, on tape aussi vite sur une tablette que sur un clavier.
Voilà. Géraud.
Oui, alors vous parlez de nombreux investissements, de gros investissements, mais on se rend compte que, on ne sait pas si vous pensez qu'aux petits investissements, que moi ça m'a frappé l'année dernière quand je suis arrivé ici, que certains carrelages qui sont mal posés, est-ce que vous envisagez de replacer des petits investissements comme ça?
Oui, alors ça fait partie des choses, alors, si on pense au pavillon Mézin par exemple, l'entrée du pavillon Mézin, ça fait partie des choses qu'on a en tête, qui sont pour nous des travaux courants. Là, on n'est pas dans les investissements dont je parlais, qui nécessitent parfois des emprunts, parfois des investissements, ce qu'on appelle dit pluriannuels, pour ne pas être trop technique. Là, on est dans du courant, on est comme dans de la peinture. Voilà. Et ça, nous, c'est des choses sur lesquelles bon, on fixe les priorités chaque année. L'établissement est très grand, il est vaste, on est sur 5,5 hectares, avec un grand nombre de bâtiments. Donc on ne peut pas tout faire chaque année, mais voilà, ça fait partie de l'entretien courant et pas des investissements dont je parlais tout à l'heure. Dans le cadre général de l'accessibilité handicapée, on a pensé un petit peu remanier le self, mais je peux pas dévoiler, c'est en cours de projet, donc j'aurais pas dévoilé encore la façon dont on va raisonner, mais dans ce cadre-là, on a repensé peut-être l'entrée au self. Pour ce qui est de l'agrandissement du self, non, on ne l'envisage pas. On l'envisage pas pour des raisons économiques, on l'envisage pas aussi pour des raisons pratiques. Actuellement, on est sur un public demi-pensionnaire qui n'est pas forcément à la hausse. Voilà, qui est stable. Donc, si on était sur un public demi-pensionnaire en augmentation, de fait, la question se poserait. Et on a investi dans la cafétéria pour les lycéens, qui permet de désengorger un petit peu le self. Donc, le travail qui a été fait cette année scolaire sur le self est plutôt d'ordre qualitatif, puisqu'on a changé de prestataire de restauration, même si les débuts ont été parfois un petit peu difficiles, puisqu'un changement de prestataire nécessite un changement d'habitude. On a plutôt axé sur la qualité de la nourriture, sur des données diététiques aussi également, même si ça ne fait pas toujours plaisir aux élèves de manger des haricots verts. On est plutôt sur l'aspect qualitatif que sur l'aspect, j'ai envie de dire, investissement immobilier.
Voilà. Je dis ça parce qu'il est déjà arrivé qu'il y ait des élèves en retard en cours car ils n'avaient pas mangé au self.
C'est arrivé, ce que je disais tout à l'heure, sur la première semaine notamment, et on va dire les 10 premiers jours de septembre, pour deux raisons majeures. Un, ce que j'évoquais, on a changé de prestataire, donc changé d'habitude. Il fallait, pour le nouveau prestataire, de se mettre au diapason du fonctionnement de l'établissement. Et la deuxième raison, c'est que la première semaine, la cafétéria du lycée n'était pas ouverte, ce qui nous a fait accueillir sur le self l'ensemble des demi-pensionnaires collège-lycée. Voilà. Mais il me semble que depuis la première semaine de septembre, les choses sont en bonne voie et qu'on a de moins en moins d'élèves en retard, voire aujourd'hui aucun élève en retard pour des raisons de self. Voilà. Donc il a fallu une dizaine de jours d'ajustement.
Avec ceci, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que M. Lemery, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Moi, je souhaite ajouter quelque chose, notamment concernant les émissions à RCF. Parmi les projets que j'évoquais tout à l'heure, l'un des axes de travail ou pédagogique sur lesquels on souhaitait évoluer, c'était cette émission. En partenariat avec RCF, qui nous accompagne sur plein d'éléments, l'aspect technique, pour faire les enregistrements à Saint-François, dans le studio de Saint-François, et ça, je trouve que c'est vraiment riche. Et puis après, il y aura l'aspect pédagogique, former les élèves sur les parties techniques, mais aussi sur la capacité à s'exprimer à l'oral, sur faire du lien avec les programmes. Donc aujourd'hui, on a une première émission et un questionnement autour d'un certain nombre de projets sur Saint-François. Parmi ces projets, il y a effectivement cette émission RCF que je souhaite étendre sur l'ensemble du second degré, c'est-à-dire de la sixième à la terminale, avec des enjeux et des problématiques bien évidemment différents.
Et toujours en lien évidemment avec la problématique pédagogique.
On est un établissement scolaire et donc on a vocation effectivement à être sur un champ pédagogique. Voilà.
Très bien, merci Monsieur Lemery, directeur de Saint-François-de-Sales, d'avoir été face aux élèves. Marceau, merci. Joël, toi, on te retrouve tout à l'heure pour un reportage sur la journée d'intégration des secondes, et ensuite Géraud pour le temps de l'actualité.